Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée du Forum Nantais des Chemins. Après le grand succès d'hier et les succès des deux conférences, la première hier après-midi et la deuxième avec Alexandre et Sonia Poussin, qui ont vraiment séduit tout le monde. On reprend notre cycle ce matin avec spiritualité, chemin de spiritualité au féminin. Et on est vraiment très heureux d'accueillir nos intervenants. Je vais commencer par le bout. Si je peux me permettre. Cyril Bolland, président des chemins des saintes et saints de Provence, qui va nous parler plus particulièrement du chemin de Marie-Madeleine. Voilà, bienvenue Cyril.
Merci. Bonjour.
Marie-Claude Latinier, qui va nous parler. Tu n'es pas la présidente, Marie-Claude?
Non, alors. Contrairement aux annonces sur le programme.
Oui, bah, c'est moi. Voilà.
C'est une association, je ne suis pas la présidente. Par contre, je suis la co-créatrice et j'ai le rôle au sein de l'association de m'occuper du site internet.
Voilà.
Pour le mettre à jour, l'actualiser. Ouais.
D'accord. Bon. Donc, on échangera sur le chemin de Sainte-Agathe, voilà, dans le Massif central.
Voilà. Tout à fait.
Voilà. Merci d'être là. Jacques Henry, président de l'association des amis de Saint-Jacques, des chemins de Saint-Jacques en Anjou. Voilà, je ne sais pas si j'ai exactement dit la bonne dénomination, mais ça y ressemble. Voilà, Jacques, on se connaît bien parce que notre Via Ligeria traverse l'intégralité du Maine-et-Loire. Et on est ravis de t'accueillir. Voilà, Jacques. Donc là, on va parler du chemin vers Sainte-Anne-d'Auray depuis Angers. Voilà, un chemin qui mérite aussi, puisqu'on va être en bord de Loire aussi. Et puis après, se diriger vers ce grand sanctuaire qu'est Sainte-Anne-d'Auray. À la technique, ma chère Anne-Laure. Tanguy de Radio Fidélité qui prend les sons pour faire des émissions qui seront retransférées sur Radio Fidélité, voilà, en podcast ou en podcast. Voilà. Je profite de parler de Radio Fidélité, qui est un de nos partenaires, parce que l'association des Haltes Pèlerines, on a une émission de radio qui s'appelle L'écho des chemins et des pèlerins, qui ne traite que des chemins. Et vous pouvez trouver tous les podcasts sur le site www.radiofidélité.com. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Isabelle Nagar, chargée de communication du diocèse de Nantes, et je te remercie particulièrement d'avoir accepté d'animer cette table ronde. À tout à l'heure.
Merci Anthony, bonjour donc à tous ceux qui nous ont rejoints, merci aux intervenants qui ouvrent cette journée de samedi. Alors, chemin de spiritualité au féminin, je suis assez heureuse que nos organisateurs aient relevé que quelques figures féminines étaient des occasions de prendre la route, parce qu'on sait tous que chaque chemin de pèlerinage a son histoire et son identité. Et j'ai bien compris, moi qui ne marche pas encore, mais alors par contre, je suis super impatiente d'être à la retraite et de me lancer. Voilà. J'ai bien compris qu'on marchait vers quelqu'un à ses côtés ou dans ses pas, et que c'était ça qui faisait la force du pèlerinage par rapport à d'autres randonnées et d'autres exploits sportifs qu'on peut connaître. Donc, alors je vous propose de découvrir un tout petit peu plus nos invités, et puis je vais leur laisser la parole. Après une courte introduction, honneur aux femmes ce matin. Marie-Claude Latimier, vous venez d'Auvergne. Mmh. Déjà, ça me fait rêver, moi, clairement. Vous allez nous parler du parc régional du Livradois-Forêt.
Voilà.
Et du chemin donc, de Sainte-Agathe qui s'y propose aux pèlerins. Vous en êtes la co-créatrice il y a un peu moins de 10 ans avec Jean-Marc Pinault, qui est président donc, de l'association du chemin de Sainte-Agathe. 100 kilomètres.
Oui.
Il paraît que c'est un petit chemin.
Ah oui, par rapport à...
Je commencerai peut-être par celui-là. Pour contempler la prégnance de cette martyre des premiers siècles dans la tradition locale. Un chemin en boucle qui invite à méditer sur le témoignage de foi de Sainte-Agathe. Vous nous raconterez l'histoire et le martyre de Sainte-Agathe. On fera peut-être rapidement sur le martyre parce que c'est quand même particulièrement impressionnant, mais on peut déjà dire qu'elle a fait l'unanimité dès le départ et qu'elle était admirée pour sa foi bien au-delà des cercles religieux. On en parlera après.
Mmh, d'accord.
À côté de vous, à votre gauche, non à votre droite, mais à gauche, sur la scène, Jacques Henry. Donc vous êtes le régional de l'étape Et donc président de l'association des Amis de Saint-Jacques en Anjou. Mais puisque l'on fait honneur aux femmes ce matin, ce n'est pas de Saint-Jacques que vous allez nous parler, mais bien de Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus, honorée dans le Morbihan près d'Auray. Comme chaque chemin a son histoire, vous allez nous raconter ce qui a conduit votre association, il y a 20 ans, à créer un chemin de 280 km qui mène d'Angers à Sainte-Anne-d'Auray. Alors pourquoi donc ? En plus, Anne-Laure vient de me dire que c'était le seul chemin vers Sainte-Anne-d'Auray. Alors là, je suis étonnée. Réponse dans quelques instants.
Juste rectifier, c'était il y a 10 ans. En fait, les 10 ans cette année.
10 ans.
2015-2025. Et en plus, c'est un anniversaire. Enfin, c'est une date particulière cette année, puisque ça fait 400 ans qu'ont eu lieu les
apparitions à Sainte-Anne-d'Auray. Et Cyril Bolland, donc vous vivez dans le Lot-et-Garonne, à Agen, c'est ça ? Mais c'est les cigales qu'on va entendre ce matin grâce à vous, puisque vous nous emmenez en Provence, les bords de la Méditerranée, qui sont accessibles à des pèlerins qui parcourent un chemin qui mène des Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu'à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 240 km.
225. Mais c'est peut-être plus long parce qu'il y a des variantes.
Donc, vous voyez. Et puis oui. Voilà, que vous avez créé sur les traces de Marie-Madeleine et auquel vous avez également consacré un livre. Tout à l'heure, vous donnerez une séance de dédicace. Choisir Marie-Madeleine pour guide, c'est remonter aux sources du christianisme, se laisser guider par une très grande mystique. Et ça, vous nous en parlerez très bien dans un instant aussi. C'est bon ? Alors, on commence par Marie-Claude, Sainte Agathe. Mais quelle est votre histoire avec Sainte Agathe ? Comment l'avez-vous...
Je commence par l'histoire et non pas le chemin. Mon histoire...
Parce que je pense que...
C'est commun, mais en même
c'est
temps...
à l'origine,
il y a deux
quand
histoires,
même.
Voilà, il y a deux histoires séparées.
Comment avez-vous, vous, rencontré Sainte Agathe ?
Alors, moi, j'ai rencontré Sainte Agathe dans une autre région dans laquelle actuellement, je suis en Rouvergne, Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai découvert une fête des femmes dans le Dauphiné. Ce sont des femmes qui, pour la Sainte Agathe, se rassemblaient et laissaient un peu tout tomber, les maris, les enfants et tout ce qui s'ensuit. Et c'était dans une région encore un peu, on pourrait dire, urbaine, un peu rurale, un peu urbaine. Et moi, qui venais quand même d'un milieu très, très urbain, je me suis posé la question, et par ma profession, j'ai fait quand même longtemps une carrière dans la sociologie, j'avais envie d'enquêter sur pourquoi ces femmes se rassemblaient. Et en fin de compte, il y a fort longtemps, parce que maintenant il y a un peu plus de 45 ans, on n'avait pas accès à Internet comme maintenant, et les femmes me disaient, nous on ne cherche pas le pourquoi du comment, on se rassemble pour la Sainte Agathe, c'est un rituel, et on le fait. Mais moi, je me suis posé des questions, et je suis allée en quête, j'ai fait des interviews, et tout ça parallèlement à ma profession. Et ça a pris une certaine ampleur où j'ai trouvé des résonances dans le monde de l'art, dans le monde au niveau géographique aussi, dans telle région il y avait des fêtes, pas de fêtes et tout ce qui s'ensuit. Donc ça a été une grande découverte parce que je ne connaissais pas du tout le personnage. Et puis en même temps, j'avais beaucoup à apprendre. Et ça a été le début, on pourrait nommer ça une passion, comme un fil conducteur que je déroule. Et que je déroule encore, parce que je trouve toujours des résonances du personnage de Sainte Agathe dans l'actualité immédiate. Donc, l'origine de Sainte Agathe, c'est un martyr. Elle a subi un martyr en l'an 251 de notre ère. Et elle a été martyrisée sous le règne de l'empereur Dèce, qui lui-même... Alors, la légende... quand je parle de Sainte Agathe, je parle d'une légende. Parce que contrairement à d'autres martyrs de cette période-là, où il reste des écrits, sur Sainte Agathe, il n'y a pas d'écrit vraiment. Il y a vraiment. Mais par contre, la période de la persécution, elle existe. L'empereur Dèce, il a eu un court instant de règne, 3-4 ans, mais il a été quand même un persécuteur. C'était les persécutions chrétiennes, avec toute leur ampleur, tout ce que ça représentait. Et ce personnage féminin, parce que c'est vraiment la représentation et la symbolique du personnage féminin, qui voulait à tout prix croire au Dieu chrétien, la chrétienté se mettait en place, et pas au nom elle ne voulait pas croire au Dieu païen, donc elle a été martyrisée, et on lui a enlevé les seins. Elle a subi le martyre, et Saint-Pierre est venu la guérir dans sa prison, et
en fin de compte, elle a eu tout à fait elle a repris une vie soi-disant un petit peu normale jusqu'au moment où le persécuteur a dit c'est pas normal, donc il l'a fait brûler sur des charbons ardents. Elle a un double martyr, et ce double martyr, on le retrouve dans notre société par rapport à la protection. Sainte Agathe, elle est protectrice contre le feu. Ça se comprend par rapport au deuxième martyr. Et il y a beaucoup de personnes qui l'invoquent. Dans les pays de Savoie, par exemple, pendant une grande période, et encore maintenant, il y a des rituels, il y a des bénédictions de petits pains ou d'images que l'on met dans des étables ou dans des maisons pour être protégé de l'incendie. Donc cette double protection, elle est importante. Et dans le domaine de l'art, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, elle est vraiment représentée. À partir du Concile de Trente, il y a eu une rupture. On ne représente plus les saints avec le martyre qu'ils ont subi, mais on représente les saints tels qu'ils sont ou tels qu'on peut les imaginer dans la vie quotidienne. Et il y a des grands artistes de renom qui se sont emparés des consignes de Trente qui avaient été posées sur des actes, et ils ont représenté Sainte Agathe, et les commanditaires qui ont passé des commandes aux artistes, il y a eu une démultiplication de tableaux. Et on peut trouver, il y a des musées, donc Paris, ça regorge de représentations de Sainte Agathe dans beaucoup de musées. Le musée Fabre à Montpellier, où il y a un tableau de Zurbaran qui est vraiment magnifique. Et on trouve comme ça dans toutes les villes. Et alors, parallèlement à cette recherche sur le personnage et mes contacts avec des personnes qui pouvaient m'aider sur cette découverte, j'ai été amenée à travailler à la Bibliothèque nationale de France. Donc, j'ai demandé une accréditation de chercheur, on me l'a accordée. Et là, j'ai fait un travail très important qui m'a permis de comprendre un peu plus le sens de la légende. Et la manière dont je pouvais en parler, ça me paraissait beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé, parce que je m'appuyais sur des documents que j'ai trouvés, et puis il y a vraiment une richesse incroyable. Et à partir de là, j'ai développé des parcours culturels. Donc, parcours culturel, je prends une ville en France ou à l'étranger, hein, et je fais le tour de la ville, tout ce qu'il y a sur Sainte Agathe, et j'emmène un groupe, et on voilà. Donc, j'ai des contacts avec des conservateurs. Voilà. Et donc, ça, c'est tout un cheminement sur Sainte Agathe.
Et qui, alors, je peux encore. Et alors, comment beaucoup, on mais... en arrive, comment voilà. On atterrit en Auvergne?
Voilà. Alors, moi, il y a une dizaine d'années, maintenant 12 ans peut-être, je me déplace de Paris, où j'ai ma retraite, et j'arrive à Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, bah, c'est une région, même il n'y avait pas encore le rattachement à Rhône-Alpes. C'était vraiment l'Auvergne, comme on peut la connaître dans la tradition de l'Auvergne. Et là, j'avais déjà, parce qu'avec le développement d'Internet, je savais qu'il y avait en Auvergne beaucoup d'impact, parce que contrairement au Dauphiné, où j'avais connu la légende de Sainte Agathe à travers une fête des femmes, en Auvergne, énormément de représentations, des tableaux, des sculptures, des oratoires. Enfin, vraiment, je découvrais en Auvergne quelque chose vraiment assez important. Et donc, j'avais commencé à me dire, je peux peut-être organiser quelque chose pour un groupe. Et j'avais fait un parcours comme ça où on pouvait faire. Et puis un jour, j'avais quand même besoin, parce que cette région là où il y a le chemin est dans un parc naturel régional. C'est ce qui veut tout dire, parce qu'il y a vraiment une approche de la nature, voilà, de tout ce qu'on peut repérer, une nature avec une végétation vraiment assez agréable, extraordinaire. Donc j'avais besoin d'un support de carte, comment inscrire Sainte Agathe dans une carte représentant le parc du Livradois-Vaurès. Donc je vais sur Internet, je vais chercher une carte vierge pour pouvoir la remplir. Et sur le site du parc du Livradois, je vois qu'il y a une annonce, un monsieur, donc Jean-Marc Pinault, qui avait fait, lui, un grand marcheur, il avait rassemblé les 65 communes du parc du Livradois-Vaurès. Et il avait terminé, mais moi, je n'en avais bien sûr pas eu écho, parce que j'arrivais. Il a donc terminé son circuit et il passait une petite annonce à travers le site du parc pour essayer de dire les gens qui m'ont suivi ou qui ont connu mon itinéraire, parce que ça lui demandait quand même un certain temps. Si vous êtes intéressé, on peut faire une rencontre, on peut se... Et moi, ça... Fait-il ? Je me dis, mais quelqu'un qui marche, quelqu'un qui a envie de faire un autre chemin, rebondir, Moi, je ne pensais pas forcément un lien avec Sainte-Agathe. Donc, je l'appelle, parce qu'il y avait un numéro de téléphone. Il me dit, mais oui, vous pouvez venir à cette réunion. Et cette réunion était vraiment très bien organisée. Et son souhait à ce Jean-Marc Pinault, c'était de rebondir sur un chemin. Il a parcouru le parc, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de racines en Auvergne et qui disait, j'ai envie, il a marché aussi un peu dans le monde entier, mais il avait envie localement de faire un itinéraire. Donc moi j'assiste, je fais partie d'une commission où on essaye de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et tout ce qui s'ensuit. Et puis quand on a rassemblé tout le travail des commissions, moi j'étais arrivée quand même avec un petit presse-book sur Sainte-Agathe en me disant, il y a peut-être une possibilité. Et là, ça a fait tilt. Le soir même, je n'ai pas eu forcément un retour, mais quelques jours après, donc Jean-Marc Pinault m'appelle et me dit, Madame Latimier, est-ce que je pourrais avoir une idée où se trouvent les emplacements où il y a des choses sur Sainte-Agathe, parce qu'on pourrait peut-être réfléchir à un chemin. Et là, donc ça fait 11 ans, parce que le chemin va fêter ses 10 ans l'année prochaine. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Donc on s'est réunis avec quelqu'un d'autre, on était trois au départ, et on a dit, ben, on crée une association. Donc l'association Le Chemin de Sainte-Agathe s'est créée, et après il y a eu l'inauguration. Entre-temps, Jean-Marc a fait tout le travail de repérage, mais on s'est beaucoup appuyé sur des chemins bien sûr existants, parce qu'on ne pouvait pas travailler sur créer des chemins. Donc des chemins existants, mais il y a beaucoup de petits chemins de randonnée, PDIPR, ce qu'on appelle. Donc lui-même, ayant comme une grande notion du secteur, il a fait un repérage. Et au départ, le chemin, il avait à peu près 180 km. Et puis il s'est avéré que c'était peut-être un peu trop lourd à gérer pour l'association, parce qu'au départ, il n'y avait quand même pas grand monde. Et là, ça se limite à... Donc c'est un circuit, c'est vraiment un circuit de 100 km. L'association fonctionne bien, donc il y a une équipe de baliseurs, voilà, et il y a une gestion assez stricte du chemin pour ne pas voilà, qu'il y ait des dérives ou faire n'importe quoi avec un balisage. On a trouvé un petit logo. Voilà. Et moi, je m'occupe bien sûr du site internet par rapport à la réactualisation. Je fais un gros travail avec les hébergeurs, avec les communes, parce qu'on a aussi des subventions. Donc voilà, c'est tout ce travail de mise en place du chemin.
Merci. Alors, une histoire, mais il y en a deux autres à découvrir. Jacques Henry, est-ce que vous pouvez nous parler de la raison pour laquelle un chemin existe entre Angers et Sainte-Anne-d'Auray, alors que Nantes soit en Bretagne? OK. Alors, Angers, là, c'est quand même gonflé. Quel est le lien? C'est une belle histoire aussi, une histoire de famille.
Et Nantes en Bretagne, dans l'association Compostelle Bretagne, la Loire-Atlantique est rattachée à Compostelle Bretagne. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. C'est vrai que c'est plutôt les Bretons qui connaissent Sainte-Anne-d'Auray. Étant d'origine bretonne, moi, j'en sais quelque chose. C'est André Lejard qui est à l'origine de ce chemin. Bon, je ne vais pas faire passer la même émotion que lui. Il est venu sur Nantes en 2024 pour présenter justement ce chemin. Et c'était... Quand il raconte l'histoire qui est arrivée à son grand-père, en fait. Donc, il faut remonter. Donc, ce n'est pas très féminin pour le démarrage. Donc, il s'est rappelé son enfance, son grand-père, qui était jeune marin, dit-elle, est pris dans une violente tempête dans le golfe de Gascogne. Et il se voit perdu. Donc, en bon breton, il implore Sainte-Anne. Et... Donc, le bateau, il y avait des vagues tellement fortes qu'à un moment donné, il se retrouve à la mer. Et il voit le bateau s'éloigner et il se voit vraiment perdu. Et il implore Sainte-Anne et une vague le ramène sur le pont du bateau. Voilà. Et donc, cette histoire-là, André l'a entendue à maintes reprises dans son enfance. Son grand-père lui racontait ça quand il était petit. Bon, c'est une histoire qu'il avait un peu oubliée. Et en 2011, quand il part sur les chemins de Compostelle, c'est vrai qu'on a le temps de faire un retour sur soi. Et cette histoire lui revient. Et il se dit, mais il faut que je crée un chemin pour aller, pour rendre hommage à mon grand-père et honorer Sainte-Anne-d'Auray. Voilà, donc c'est comme ça qu'il a eu l'idée. Et ça lui a pris 3 années pour tracer le chemin. Et
mais il n'est pas parti d'Etel, parce qu'à la limite, non. Je veux bien, du coup, c'est moins loin.
Alors, il est parti d'Angers parce qu'il... André, lui, c'est un Angevin. Alors, le jeune marin en question, quand il est rentré, son grand-père, hein, si vous suivez l'histoire, donc quand il est rentré de la pêche... Donc, a fait le pèlerinage à pied, ben, pieds nus, vers Sainte-Anne-d'Auray, de chez lui à Sainte-Anne, comme c'était de tradition. Voilà. Et c'est en souvenir de ce moment-là que André a eu envie de créer ce chemin partant d'Angers. Voilà.
Y avait-il des fans de Sainte-Anne à Angers? Est-ce qu'il a rencontré du succès dès le départ?
Il y a eu du succès, oui. Je n'ai pas le chiffre, mais l'inauguration a eu lieu le 26 juillet 2015, le jour de la Sainte-Anne, en fait, la Sainte-Anne le 26 juillet, le lendemain de la Saint-Jacques. Vous voyez, tout est lié. Hein, ouais. Alors, il y a beaucoup d'Angevins, beaucoup de Bretons qui sont sur Angers, qui sont en Anjou, il faut le dire. Voilà. Oui, il y avait... une bonne partie des membres de l'association qui étaient présents lors de cette inauguration. Alors, ce n'est pas forcément un chemin très, très fréquenté, mais voilà, il existe, il a le mérite de vivre. On essaie de le relancer, parce qu'André a passé la main. C'est Jean-Michel qui aurait dû être là, mais il était empêché ce matin. Et donc, c'est Jean-Michel maintenant qui a pris le relais. Pour essayer. On a refait le balisage. Voilà. 280 km. Ouais. Découpé, on peut le faire en 13 étapes. L'avantage, c'est que c'est un chemin à proximité. Et puis, facile. Hein. C'est pareil. C'est assez plat. Voilà. Oui. Oui.
On longe le canal de Nantes-Abrest,
voilà,
sur une partie.
Donc, on longe la Loire d'abord, après le... à Oudon, donc on s'écarte de la Loire pour rejoindre Nord-sur-Erdre. Et c'est là que les Nantais peuvent effectivement retrouver ce chemin, le canal de Nantes à Brest. Et puis après, donc, on file vers Vannes. Et d'ailleurs, André l'appelait, on disait on pourrait le dénommer au fil de l'eau. Parce qu'une grande partie se fait effectivement le long de rivières ou de canaux. Voilà.
Ok, on reviendra sur la figure de Sainte-Anne dans
tout
un instant.
Si
on va laisser Cyril nous parler de Marie-Madeleine et de sa rencontre avec elle et de la création donc de ce chemin direction la Provence.
Oui, alors voilà, comme vous avez dit, on n'est pas des Provençaux au départ. Et moi, j'avais eu l'occasion en fait d'aller en Provence quand j'étais étudiant dans le cadre de la fin de mes études. Voilà, j'avais fait un stage là-bas. Et en fait, j'avais entendu parler à l'époque, mais très vaguement, qu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, il y avait une tradition qui disait que des femmes seraient arrivées en barque. Et à bord de ce bateau, entre autres, il y avait Marie-Madeleine. Voilà, et moi, je suis reparti après dans mes pénates. À l'époque, j'étais du côté d'Orléans. Et puis, étant étudiant, j'étais de droite et de gauche. Et quelques années après, en étant sur le chemin de Saint-Jacques, parce qu'en fait, entre-temps, j'ai marché sur le chemin de Saint-Jacques à plusieurs reprises. Enfin, voilà. J'ai eu plusieurs grosses expériences de pèlerinage à pied, on va dire. J'avais rencontré un ami en Espagne qui m'avait, avec qui j'étais resté en contact et qui, lui, m'avait dit qu'il y a une tradition du côté de Toulon qui disait que Marie-Madeleine aurait passé 30 ans dans une grotte. Voilà. J'avais gardé ces éléments-là en tête. Et puis, la vie faisant, on est arrivé en Bretagne avec mon épouse. L'hiver breton étant parfois très rude, en tout cas en baie d'Audierne, sans rentrer dans les stéréotypes, on en avait un peu ras-le-bol de la pluie. Et on a cherché le soleil pour des vacances en plein mois de février. Et le seul endroit en France où il faisait beau, c'était la Provence. Donc j'ai proposé à ma femme d'aller en Provence. Et comme on adore marcher tous les deux, on est tous les deux d'anciens pèlerins, je lui ai dit, écoute, on va se faire une espèce de petit pèlerinage sur les pas de Marie-Madeleine, parce que j'ai entendu dire qu'elle était arrivée au Sainte-Marie-la-Mer et voilà, qu'il y aurait une grotte où elle aurait passé 30 ans. Donc on va aller du point A au point B. Mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chemin existant. Donc on a fait avec les moyens du bord. On a emprunté des GR. Moi, j'avais acheté juste une carte au 100 000e, donc avec que les principaux GR qui étaient indiqués. Donc, on a fait une partie en marchant, une partie en stop, une partie en prenant le petit train le long de la Côte Bleue. Moi, je voulais qu'on fasse les Calanques de Cassis, donc on est passé par les Calanques de Cassis. Voilà, on a fait une semaine de marche mélangée avec d'autres choses. Et en fait, on a fait une découverte incroyable. On a découvert la tradition provençale. Et des gens qui nous en parlaient, très habités. En fait, cette tradition locale, elle est dans le cœur de tous les Provençaux encore. Marie-Madeleine, c'est la sainte patronne de la Provence. Et en fait, ça faisait quelque chose de très vivant. Et ça, en fait, nous a bouleversés. En fait, quand on marchait, déjà de traverser tous ces lieux qui sont absolument fabuleux, ces sanctuaires qui lui sont dédiés et tout, on a plongé dans quelque chose où on avait quasiment le sentiment de marcher avec elle, en fait, à ses côtés. Et de découvrir aussi autour d'elle toutes ces figures de la tradition provençale. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette tradition provençale? La tradition provençale, je vais écarter un peu le micro parce que je suis peut-être un peu trop près, raconte que donc il y a une barque qui a débarqué en l'an 40, avec à son bord en fait des exilés de Terre Sainte qui avaient fui les persécutions des premiers chrétiens. Il y aurait Marie-Madeleine à bord, Lazare, Marthe, qui sont considérés dans la tradition provençale comme ses frères et sœurs, puisque Marie-Madeleine est mélangée avec la figure de Marie de Béthanie. Il y a Marie-Jacobée et Marie-Salomé, qui sont les parentes du Christ et des apôtres, hein, Jacques et Jean en particulier, pour les plus connus. Et d'autres figures, il y a Sarah, qui est cette fameuse sainte qui est vénérée par les gitans au Sainte-Marie de la Mer, justement, qui serait une servante de Marie-Jacobée et Salomé. Et puis, quelques autres figures encore, comme Sidoine, qui est le nom qui a été donné à l'aveugle de naissance, voilà, qui est dans les évangiles. Et puis, quelqu'un comme Joseph d'Arimathie. Alors, en fonction de la tradition, il y a des traditions dans la tradition, et elle ne raconte pas toutes exactement la même chose. Mais voilà, il y a cette barque qui arrive, avec entre autres Marie-Madeleine, donc qui est un peu, l'emblème quand même de tous ces saints qui sont rassemblés. Et puis nous, c'était elle qui nous parlait, c'était sa suite qu'on souhaitait marcher. Et elle, il se trouve qu'elle va évangéliser Marseille avec Lazare avant de se retirer pendant une trentaine d'années dans cette fameuse grotte à la Sainte-Baume. Je ne sais pas s'il y a une photo là où on voit le sanctuaire. En fait, il y a une grotte qui est une église dans le massif de la Sainte-Baume. C'est un endroit absolument fabuleux. Et puis, elle serait donc morte là-bas. Il y aurait des reliques. Il y a ces reliques à Saint-Maximin à Sainte-Baume, qui est un petit peu plus loin de la Sainte-Baume. Et du coup, ayant vécu ça, ayant entendu parler de cette tradition que nous, on méconnaissait complètement, moi, j'avais eu ces deux informations, mais vaguement. À l'époque, bon, je ne m'intéressais pas forcément à tout ça plus que ça, et je n'avais pas réalisé que c'était la même tradition dont il était question. Et donc, en finissant notre marche, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose avec cette tradition, avec ce chemin. Et on avait rencontré à l'époque l'animatrice du sanctuaire des Saintes Marie de la Mer, qui a absolument mordu dans le projet, qui était fan aussi de ce projet-là. Et du coup, on s'est dit, on va faire quelque chose ensemble. Mais on n'habitait pas sur place. Donc ça a mis un peu plus de temps que vous pour se concrétiser. On a marché avec ma femme une première fois en 2013. Moi, je suis revenu en 2016 pour essayer de tester un itinéraire pédestre, parce qu'on ne savait pas s'il y avait un itinéraire qui était possible à pied. Et on a trouvé un itinéraire en 2016. Et de là, fil en aiguille, on a créé une association qui s'appelle Chemin des Saintes et Saintes de Provence, puisque au départ, cette association a pour objectif de créer d'autres chemins que uniquement un chemin dédié à Marie-Madeleine. Il y a d'autres chemins qui seront ouverts prochainement. On est en train de travailler sur un chemin sur Marthe, par exemple. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je pense que la région a eu vent du projet. Elle a monté un projet parallèle au nôtre. Et puis, on a réussi à se retrouver, à faire quelque chose de commun, à fédérer nos énergies. Ils étaient très rassembleurs. Ils travaillaient avec la Fédération de randonnée pédestre et tout. Nous, on ne pensait pas que ça pouvait intéresser une région, en fait, ce projet, au départ. Donc, nous, on faisait notre petit truc dans notre coin, entre guillemets. Et en fait, ça a pris les proportions de maintenant. Alors, officiellement, le chemin a été lancé en 2021 par le président de région, Renaud Muselier. Et à nous, à partir de 2022-2023, on a fait deux marches inaugurales pour lancer les nouvelles activités de l'association, puisque là, on travaillait sur l'itinéraire. Et à partir de là, comme on a commencé à travailler avec la région qui finance le projet, la Fédération de randonnée pédestre qui fait tout ce qui est balisage, nous, on s'est réorienté vraiment sur l'accueil des pèlerins. Et du coup, maintenant, en fait, on a mis en place un réseau d'accueil pour les pèlerins, on a un topo guide, on a un guide de toutes les ressources, services, tout ça est en ligne sur notre site internet. Voilà, il suffit d'adhérer à l'association et vous avez accès à toutes ces ressources pour pouvoir partir marcher sur les pas de Marie-Madeleine.
Cette figure
Oui, parce qu'en fait, on méconnaissait complètement, comme je vous disais, cette tradition. Et en fait, c'est une femme qui moi, m'interpellait déjà beaucoup. Elle porte le nom de ma grand-mère, une grand-mère que je n'ai pas connue. Et du coup, faire cette marche, c'était aussi une manière un peu d'enquêter sur cette figure, qui est-ce qu'elle était vraiment. Parce qu'en fait, moi, personnellement, en lisant les évangiles ou en lisant tout ce qu'on peut lire sur elle, on peut être un peu troublé par un peu sous toutes les facettes de cette femme. Je pense que beaucoup de gens, du coup, peuvent se retrouver en elle, aussi bien des femmes que des hommes, en l'occurrence, la preuve en est. Et cette tradition, nous, elle nous a touchés parce qu'elle nous parlait quelque part aussi de nos racines, en fait. Parce que c'est, voilà, on est au début de l'évangélisation de à l'époque, la Gaule, la France. Et en fait, c'est toute notre histoire. Et je pense que nous, ça nous ramenait à ces fondements, ces racines. Alors, moi, je ne parlerai pas forcément de légende, mais je comparais ça un petit peu à un mythe, mais au sens positif du mythe, un mythe fondateur. Ce n'est pas une histoire factice, c'est quelque chose qui, une espèce de vérité, mais qui dépasse le cadre historique et qui nous parle en profondeur de là d'où on vient, en fait. Et cette tradition, elle parle de ça, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est encore si forte et si présente. Et nous, le désir, en créant l'association, en proposant ce chemin, c'était vraiment de la faire connaître d'une manière plus large, parce que là, on est vraiment sur le territoire de la Provence, c'est hyper connu. Mais en dehors de ce territoire-là, les gens ne connaissent pas, en fait, cette histoire. Ils ne la connaissaient pas, en tout cas, parce qu'on commence à en entendre parler là, de plus en plus. Depuis que le chemin existe, il y a quand même déjà eu pas mal de communication. En plus, voilà, il y a le livre qui est sorti, tout ça. Et voilà, nous, on avait vraiment envie de diffuser ça. Et alors, cette figure de Marie-Madeleine, dans la tradition provençale, c'est une femme mystique. C'est-à-dire, c'est une femme qui a passé 30 ans dans une grotte, en haut du massif de la Sainte-Baume. Là, vous ne le voyez pas sur la photo-là, mais... on voit sur la poche du livre, la pochette du livre, il y a une petite chapelle. Et cette petite chapelle représente le lieu où, cette fois, ce que dit la tradition locale, cette fois le jour, elle était élevée par les anges pour participer à la liturgie céleste. Donc ça veut dire vraiment que cette femme, elle avait... en fait, c'était une mystique, quoi. Elle avait... elle était sur un chemin spirituel de profond... comment dire, tant de silence, de retrait du monde... et puis d'union, petit à petit, d'union, de connaissance avec Dieu. Donc ça, tout ça symbolise cette femme. Voilà, mais je pense que cette dimension-là mystique, on va pouvoir l'approfondir dans un deuxième temps. Mais la mystique, c'est l'union de Dieu et de l'homme. C'est ça dont il est question. Les grands mystiques, c'est le chemin, et c'est en fait le chemin qui est proposé à tout un chacun. Donc finalement, Marie-Madeleine, ce serait une de ces premières personnes de la mystique chrétienne et qui propose finalement à sa suite un chemin qui est ouvert à tous et à toutes. Parce que l'intérêt de ce chemin de Marie-Madeleine, c'est que c'est transversal, ça n'attire pas que des catholiques convaincus. Il y a énormément de femmes d'ailleurs qui partent marcher sur le chemin, essentiellement des femmes. Il y a plus de... Voilà, les deux tiers des personnes qui partent marcher sont des femmes qui viennent marcher seules sur le chemin. Mais elles viennent pour plein de raisons différentes. Voilà. Et nous, c'est ça qui nous intéressait aussi. On savait que cette figure-là allait parler à des gens par-delà beaucoup de frontières.
Ce chemin, donc, il met en valeur une figure que nous connaissons surtout comme très humaine, mais dont vous dites qu'elle a pu se rapprocher très près de Dieu dans ses 30 années de vie désertique. Mais elle nous invite aussi, par l'expérience, à traverser l'humanité, parce que le chemin traverse Marseille. Alors, vous avez parlé de lieux, d'espaces naturels très beaux. Il y a aussi la traversée des quartiers de Marseille. Et c'est une expérience en soi.
Oui, on assume pleinement cette dimension-là. Alors déjà, Marseille, c'est quand même une ville à part. Quand vous êtes à Marseille, vous n'êtes plus vraiment en France, à vrai dire. C'est une ville qui est très cosmopolite, avec plein de quartiers différents. En fait, c'est un rassemblement de villages, Marseille. Et les quartiers nord sont souvent cités dans les médias et malheureusement souvent pour des sombres questions, mais c'est pas du tout que ça. Les quartiers nord, en fait, il y a un site dans le quartier nord qui s'appelle les Égalades, qui est un lieu où en fait il y a une statue de Marie-Madeleine et où la tradition raconte qu'elle aurait vécu quelque temps, soit avant d'évangéliser Marseille, soit avant de partir pour la Sainte-Baume. Voilà, et donc il y a une grotte avec sa statue dans une petite église, et c'est un quartier très populaire où on est accueilli chez des gens tout simples, et en fait c'est des accueils fabuleux, c'est des lieux qui sont magnifiques, et en fait traverser Marseille à pied, C'est pas une épreuve. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à traverser cette ville. Et Dieu sait pourtant que je suis plutôt du genre rural et que j'aime pas trop les villes. Donc, il y a des lieux comme ça. On s'approche aussi de Fos-sur-Mer. C'est une zone très industrialisée. Mais en fait, ce type de chemin nous confronte aux contrastes qui sont les nôtres à l'heure actuelle. C'est-à-dire, bien sûr, qu'on cherche la nature et les lieux préservés et tout, mais la réalité de notre civilisation, c'est qu'on est une civilisation du pétrole. Et donc, du coup, il y a bien des endroits où il y a des raffineries, des choses comme ça. Et là, du coup, on les voit. Des lieux où il y a production d'électricité, on les voit aussi. Mais on peut en faire aussi assez vite abstraction parce que à ça, il y a le pendant de ces zones de nature incroyables. Enfin, traverser la Camargue à pied, c'est traverser un désert de sable, de sel et d'eau à perte de vue, à pied. C'est vertigineux. Et on commence par ça. Après, vous êtes sur la côte bleue. C'est une côte magnifique. C'est pas Cassis, mais c'est Cassis en plus petit. Au lieu de faire 300 mètres de dénivelé, ça en fait que 100. Mais vous êtes avec des petites criques au bord de mer turquoise, avec des petits ports blottis. Enfin, c'est juste fabuleux. Marseille, moi, j'adore cette ville. Donc, la traversée, c'est super. Après, vous êtes du côté d'Aubagne et du Pays de Pagnol. Et ce massif de la Sainte-Baume, il est juste incroyable. Il y a une forêt millénaire à ses pieds, des arbres, une forêt relique, des arbres qui ont plus de... des essences d'arbres qui ont plus de 1000 ans, avec une écologie locale qui est complètement hors norme en Provence, parce que vous êtes sur une face nord et très humide. Et donc, du coup, là, vous avez une végétation que vous ne trouvez jamais en Provence, normalement. Et puis, ce sanctuaire, il vous saisit, en fait. Nous, on a été complètement saisis, bouleversés par ce chemin.
Vous l'êtes toujours, visiblement.
Si je suis président de l'association, que j'ai écrit un livre et tout, je peux vous dire, il faut être accroché quand même, parce qu'on a mis plus de 10 ans pour le créer. Enfin, je veux dire, ça a été, soit qu'on lit le livre ou qu'ils le liront, vous verrez, c'est une épopée. Hein. Rien que la création du chemin, c'est une épopée. Et c'est plein de petits signes de la providence et tout. C'est juste incroyable tout ce qui s'est passé. Et ce n'est pas un projet personnel. C'est une œuvre collective et c'est ça qui est beau, parce que c'est ensemble qu'on construit. Ce n'est pas soi tout seul de son côté, en fait. Tout seul, on n'arrive pas à grand-chose. Mais quand on marche, on le sait, puisqu'on bénéficie de tous ces accueils, tous ces gens qui vous aident à marcher. Tout seul, on n'arriverait jamais au bout.
Donc, si le chemin de Marie-Madeleine nous fait rester plongé dans la vie actuelle et dans tous ses aspects, Marie-Claude, dans le livre à Doigts-Forez, on a des témoignages de la foi des gens du passé, puisque votre chemin est ponctué de représentations de Sainte Agathe.
Oui, c'est ça, hein, tout à fait. Donc, c'est un espace géographique assez important. Enfin, je n'ai plus en mémoire la superficie du parc du Livradois. Et le chemin de Sainte-Agathe s'inscrit sur un espace relativement réduit où les œuvres sont hyper présentes. Et entre autres, le chemin fait 100 km. C'est un circuit et on part de la ville de Thiers. Je ne sais pas si c'est un repère pour vous. C'est à l'est de Clermont-Ferrand.
Et pays du couteau.
On redescend
le pays du couteau.
Pays des couteaux, oui, aussi. Et on descend jusqu'à Olliergues, qui est une très belle cité, avec des caractéristiques. Et on remonte à Thiers en pratiquant des plaines, des bois. On traverse des espaces naturels qui sont pleins qui peuvent être pleins de méditation, de rencontres. De rencontres de gens locaux, et avec qui des commerçants, des hébergeurs, il y a vraiment de quoi alimenter cet espace de 100 km. Et en même temps, par rapport à Sainte-Agathe, il y a, entre autres, ça me vient comme ça à l'esprit, sur le bord du chemin, il y a un oratoire, une partie. Les 100 km sont sur 5 étapes. Après, on commence où on veut, comme c'est un circuit. Mais sur une des étapes, qui peut être considérée comme la troisième, il y a un oratoire sur le bord du chemin. Et au haut de l'oratoire, où il y a une petite statue, une représentation de Sainte Agathe à l'intérieur. Et en haut, c'est marqué « Sainte Agathe protège les voyageurs ». Donc, le symbole de cet itinéraire. Alors, par contre, quand j'ai découvert cet oratoire avec cette inscription, ça ne correspond pas forcément aux voyageurs, aux itinéraires, aux
pèlerins,
aux randonneurs du circuit, mais on est en limite d'une zone qui s'appelle les Bois Noirs, Et qui, après, on est dans la Loire. Là, on traverse le Forez, parce que là, on est sur le Livradois-Forez. On traverse le Forez et on est dans la Loire. Et pour traverser cette zone, c'est une zone un petit peu d'altitude qui ne va pas trop, 1400 mètres maximum, qui est un mont. Et j'ai fait aussi un itinéraire d'oratoire ponctuant un sentier. Et quand on dit « Sainte-Agathe protège les voyageurs », c'était plutôt l'école porteur qui allait d'un certain endroit et qui traversait cette zone des bois noirs, qui était une zone considérée un peu comme glauque, dangereuse, tout ce qui s'ensuit. Donc cet oratoire qui se situe sur le chemin de Sainte-Agathe, voilà, qui passe bien devant, il est aussi très symbolique de cette vie qui pouvait exister il y a des années en arrière et où Sainte-Agathe était déjà présente, quoi. Donc ça, c'est un intérêt, ça peut être un intérêt du chemin, il y en a beaucoup d'autres, mais c'en est un, quoi.
Comme Cyril, vous avez une vraie passion pour ce chemin et ce territoire, et le chemin est aussi l'occasion de faire vivre localement les petits villages qui sont traversés. C'est une de vos batailles, en fait.
Voilà. Alors, ça, c'est dès le départ, c'est l'état d'esprit du président. Quand on a créé l'association, il a souhaité faire vivre ce territoire. Parce que le Livradois-Forez, dans cette partie donc, qui est complètement à l'est de Clermont-Ferrand, et que l'attraction, elle est la chaîne des puits. Moi qui habite déjà quelques années à Clermont-Ferrand, l'attraction et l'office du tourisme à Clermont-Ferrand, il n'y a que la chaîne des puits, comme ça a été un classement à l'UNESCO, et il y a beaucoup de tourisme de puits, c'est incroyable. Par contre, on est à 50 km, le Livradois-Forez, 50 km à l'est de Clermont-Ferrand, c'est une zone, je voudrais, un petit peu oubliée. Alors, le parc naturel a permis effectivement d'avoir des moyens de faire vivre cette zone, et quand il s'agit de créer l'association, le président nous a dit... Moi, c'est aussi quelque chose où on peut apporter une contribution à valoriser ce qui se passe sur le territoire. Il y a un chemin, il y aura des randonneurs, mais aussi il faut avoir cette proximité avec les hébergeurs, les restaurateurs, les commerçants. On peut faire un peu de ravitaillement. Donc il y avait aussi cet état d'esprit de faire vivre ce territoire pleinement. Donc, sur le site internet, on nomme, et puis on a des liens très directs avec toutes les personnes qui sont sur chemin. Et on participe à faire vivre ce territoire.
Je voudrais revenir sur Jacques, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Sainte-Anne, de la figure de Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus. Elle est invoquée à Sainte-Anne-d'Auray pour une raison bien particulière. Vous pouvez nous en dire deux mots et nous dire qui vient la rencontrer.
Alors, évoquer la figure de Sainte-Anne, difficile. Par contre, Sainte-Anne-d'Auray, oui, pourquoi ce pardon qui est le plus important en Bretagne, les 25 et 26 juillet. Alors, le 25 juillet, une date clé, hein, 1624. Donc, la Sainte-Anne, je vous disais, était fêtée dans l'église déjà depuis longtemps, le 26 juillet. Et là, c'est le 25, donc le jour de la Saint-Jacques, dans un petit hameau du nom de Kerana, qui veut dire le village d'Anne, en breton. Une cinquantaine d'habitants. Et donc, c'est Sainte-Anne apparaît à Yvon Nicolazic, un paysan breton d'une trentaine d'années, et qui lui dit en breton « Je suis la mère de Marie ». Et le 7 mars suivant, donc là, le 7 mars 1625, donc oui, 400 ans plus tard, c'est le jubilé cette année, hein, suite à l'appel de Sainte-Anne, Yvon Nicolazic découvre une statue qui avait pour origine une ancienne chapelle, la première dédiée à Sainte-Anne pour la Bretagne, qui datait du VIe siècle, une chapelle tombée en ruine. Et Sainte-Anne lui a dit il y aura dans ce champ qui était difficile à labourer. Il y a une statue et lui demande ensuite de reconstruire une chapelle, un lieu de culte. Voilà. Donc c'est en gros l'histoire du sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray. C'est en fait c'est une réactualisation d'une ferveur pour Anne. Alors, dans la tradition, on peut Anne dans le pays celte, il y avait une déesse qui s'appelait Anna. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Voilà. Pourquoi les Bretons se sont tournés vers Sainte Anne, voilà, la mère de Marie.
Ça me fait penser à la représentation habituelle de Sainte Anne. Elle est rarement seule. Hein. Elle apprend à lire à Marie.
À Marie, oui.
Donc, les Bretons se rendent à Sainte Anne d'Auray pour remercier pour leur vie de famille.
Ouais, ça fait partie de la vie. Hein. Moi, je suis breton, mais de la région de Vitré, en Ille-et-Vilaine. Et c'est vrai que d'aller à Sainte Anne d'Auray, ça fait partie de la vie normale. Voilà, d'un passage obligé. Et notre fille, on lui a donné comme prénom Anne-Claire. C'est en venant dans la voiture, en parlant avec les amis qui y étaient. C'est là que je réalisais. Bon, Claire, on était d'accord sur le prénom, puis on n'a pas pu choisir Claire parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la famille qui avait ce prénom. Et on a choisi Anne-Claire. Et là, ça fait tilt en venant. Je dis, bah oui, c'est pas étonnant qu'on ait choisi Anne. Voilà. Ça paraît naturel, mais voilà, c'est un petit clin d'œil pour aujourd'hui.
Si on en revient au thème de cette table ronde, chemin de spiritualité au féminin, est-ce que vous avez chacun le sentiment qu'une figure féminine conduit assez naturellement à une démarche intérieure, à se rapprocher peut-être de Dieu ou à le croiser sur son chemin, parce qu'on le disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas croyant en partant ou même en rentrant. Cyril ?
En fait, pour moi, la figure de Marie-Madeleine, elle est très touchante parce qu'au départ, c'est sans forcément faire même l'amalgame des trois Maries, hein, la pécheresse, Marie-Madeleine, Marie-Jacobée. Marie-Madeleine, c'est celle qui est le matin de la résurrection. Hein, c'est celle à qui le Christ apparaît en premier. Donc, je pense qu'elle avait, avec lui, une relation quand même privilégiée. Et c'est une femme qui revient de loin. C'est une femme qui a été sous l'emprise de sept démons. C'est au moins le minimum de ce qu'on peut retenir. Donc, autant dire que c'est quelqu'un qui a dû passer par des sacrées péripéties dans sa vie et des souffrances. Et je pense que du coup, ça peut déjà rejoindre beaucoup de gens. Et c'est une figure qui, du coup, est très proche de nous. Pour moi, c'est un peu le pendant de la Vierge Marie, de la Théotokos, comme on dit dans l'orthodoxie. Marie, dont on parle un petit peu là, à travers Sainte Anne, c'est une figure de l'humanité, mais qui est assez inaccessible quand même. Enfin, moi, je trouve, parce que voilà, elle est très proche de Jésus, tout ça. Et Marie Madeleine, elle me semble beaucoup plus proche de nous, enfin, parce que justement, elle a traversé. Bon, je dis pas que Marie a pas traversé des épreuves, parce que voir son fils transpercé sur une croix, ça doit quand même pas être génial. Mais malgré tout, enfin voilà, dans ce qu'on en retient dans nos figures, chrétiennes, ça reste quand même voilà. C'est elle qu'on prie pour intervenir auprès de Jésus. Enfin, on sait qu'elle est très proche de lui. Donc Marie-Madeleine me semble déjà plus proche pour ça. Et puis elle a un chemin du coup incroyable. Enfin, à travers la tradition provençale, de là où elle est partie, elle se retrouve témoin de la résurrection. Et puis la tradition provençale donne une suite à cette histoire parce que dans les textes bibliques, elle disparaît hein, après la résurrection. On n'entend plus du tout parler d'elle. Et là, il se trouve que voilà, il y a cette tradition qui dit non, elle est venue en Provence, elle a évangélisé la Provence, elle a passé 30 ans dans une grotte et en fait, c'est devenu une contemplative et une mystique. Et la mystique, pour moi, elle nous parle aussi à tous et à toutes, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, la personne mystique, c'est ce qu'elle. Le chemin mystique, c'est l'union à Dieu, l'union connaissance de Dieu. On peut utiliser les deux mots. Le terme connaissance, au niveau biblique, vous savez ce qu'il veut dire. Quand Marie dit « je ne connais pas d'homme », c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'union intime avec elle n'a pas connu d'union intime avec un homme. On parle d'union nuptiale, en fait. Il y a cette dimension-là. Et quand on commence à parler de mystique comme ça, on s'aperçoit qu'il y a une polarité. Et l'être humain, par rapport à Dieu, il est plutôt féminin, et Dieu serait masculin. Quand Jésus parle de son Église, elle est féminine. Quand il parle de l'époux, Jésus et son épouse, voilà, l'Église. Donc il y a bien une dimension plutôt féminine de l'humanité par rapport au Dieu masculin. Et du coup, cette union qui est d'ordre nuptial, mais spirituelle, je veux dire, je ne parle pas d'union, d'union physique, quoiqu'elle englobe sans doute cette dimension-là en soi, puisque Dieu ne rejette rien de notre humanité. Je veux dire, voilà, on est corps, âme, esprit. Donc tout ça, finalement, comment, vibre et nous rapproche de Dieu. Et c'est la relation entre que Dieu recherche pour l'homme. Alors, j'aime beaucoup cette citation d'un hésychaste byzantin, Nicolas Cabasilas, qui est du 15e siècle. Il parle de l'amour fou de Dieu pour l'homme. Voilà. Et cet amour fou en grec, il ne l'appelle pas agapé. Je ne vais pas vous refaire des cours de grec, mais en français, on a un seul mot pour le mot amour. Il y en a au moins trois en grec. Il y a Eros, Philia et Agapé. Eros, c'est l'amour sensuel, on va dire. Philia, c'est l'amour filial. Et Agapé, c'est la charité, c'est l'amour désintéressé. Et quand lui, il utilise le mot d'amour fou de Dieu pour l'homme, il parle d'Eros. Il utilise ce mot-là, manikos eros. Donc, l'amour de Dieu pour l'homme, c'est un eros, mais transfiguré. C'est ce que Grégoire de Nice appelle l'eros, c'est l'intensité de l'agapé. C'est-à-dire qu'il y a quand même voilà, cette dimension assumée, nuptiale, de cet amour de Dieu pour l'homme, où voilà, l'homme est plutôt, encore une fois, figure féminine par rapport à Dieu qui est masculine. À partir de là, cette symbolique, cette représentation de Marie-Madeleine, elle peut nous parler à tous, aussi bien hommes que femmes, parce que vis-à-vis de Dieu, finalement, on est tous à la place de Marie-Madeleine. On se retrouve tous à la place de cette figure, et voilà. Et clairement, dans le monde orthodoxe dont je viens, puisque on s'est pas vraiment présenté, mais je suis diacre orthodoxe, la mystique, elle est complètement assumée. Je sais qu'en Occident, souvent, les mystiques, on les a plutôt mis sur des bûchers, et voilà, on les a un peu annexés, ou en tout cas, enfin, peut-être pas des bûchers quand même, pour pas exagérer, pas tout le temps.
Rangés dans des placards, au moins.
Mais en tout cas, c'était souvent gênant, quoi. On a eu du mal à les assumer, en tout cas sur le moment. Après, on les sanctifie, mais sur le moment, on a tendance un peu à les rejeter. Je pense à François d'Assise, à, je sais pas moi, Padre Pio, des gens comme ça. Ils ont été, voilà. Mais voilà, dans le monde oriental, c'est, je pense, beaucoup plus assumé dès le départ. Donc voilà. Et il me semble que c'est le chemin de tout à chacun, en fait. C'est pas un chemin à part. On est tous appelés à cette union petit à petit. Mais quelles que soient nos croyances, hein, je ne limite pas ça à la sphère chrétienne. Je veux dire, d'une manière générale, voilà, c'est cette ce qui est le chemin d'humanité, c'est se rapprocher petit à petit de ce qui est au plus profond de nous-mêmes, notre être profond qui n'est autre que Dieu.
Alors, il ne faut pas trop qu'on déborde, mais quand même, dans l'histoire de Sainte Agathe, Marie-Claude, moi, j'avais noté que, en fait, les premières fois où elle a été invoquée pour protéger du feu et des éléments, c'était par des païens qui avaient quand même reconnu en elle une foi qui lui avait permis de vivre ces deux martyrs successifs.
Tout à fait. Il y a eu
c'était
une
vraiment un témoignage incroyable qu'elle
voilà,
laissait paraître.
Ce témoignage, il reste aussi dans des écrits, parce qu'en fin de compte, alors le premier à avoir dévoilé, mais ça existait bien avant, c'est Jacques de Vérogune dans la Légende dorée, qui effectivement a récolté la mémoire des personnes, une mémoire ancestrale qui s'était oralement traduite comme ça de personne à personne, et lui en a fait la Légende dorée. Et puis il y a un gros travail sur les bollandistes aussi, qui insiste sur le martyr de Sainte Agathe et ce voile qui recouvrait son sépulcre. Donc ça, c'est quelque chose d'important dans la symbolique quand on évoque Sainte Agathe. Moi, j'aimerais revenir par rapport à votre question, Sainte Agathe sur le chemin. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas la disposition, dans quel état d'esprit partent les gens qui randonnent, enfin les randonneurs, les randonneuses. Mais par contre, j'aimerais insister sur ce point-là, parce qu'en fin de compte, dans l'association, il y a une place qui est laissée à Sainte-Agathe qui m'impressionne et qui n'est pas forcément uniquement de mon fait. C'est du président ou des adhérents. Il y a une adhérente dans la salle. Et ça, il y a toute sa place, alors que ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant. L'appellation, le chemin de Sainte-Agathe, il est venu comme naturellement, mais sans se poser la question qui était vraiment cette sainte. Par contre, la place que j'ai prise dans l'association, c'est, on m'a donné un titre, mais je l'avais avant, et puis, parce que comment on nomme quelqu'un qui s'occupe d'un personnage légendaire, d'un personnage qui a martyrisé de la période chrétienne, tout ça. Et moi, j'ai pris l'appellation hagiographe, parce que ma référence était Claude-Louis Combet. Il a démystifié cette aussi un peu la géographie qui n'avait pas vécu pendant des années, qui était enfermée dans un carcan, et lui a donné des ouvertures qui vont vers des choses qui résonnent en moi. Et je me disais, effectivement, on peut parler d'un personnage légendaire, d'un personnage qui a été symbolisé dans la période chrétienne, d'une façon beaucoup plus large et beaucoup plus ouverte. Et cette place-là, je l'ai trouvée au sein de l'association, parce que j'ai effectivement, on me nomme hagiographe. Et quand il s'agit de choses sur Sainte-Agathe, on fait référence à moi. On a eu des appels. Là, on a été contacté par un cinéaste documentariste. Il a fait le chemin sans nous le dire, tout ça. Et il a envie de faire un film là-dessus. Ils nous ont contactés et le président l'a renvoyé vers moi. Parce que, voilà, je peux parler de Sainte-Agathe, quoi. C'est un peu plus, peut-être, que les autres personnes. Et puis, j'ai fait un parcours culturel avec des adhérents. On est parti à Clermont-Ferrand, enfin pas très loin, et j'ai fait voir tout ce qui existe sur Sainte-Agathe. Et ce chemin, par rapport à l'état d'esprit des randonneurs, on pourrait dire qu'il nous échappe un peu, mais on a quand même des retours, on a des très beaux témoignages, qui sont d'ailleurs sur notre site, où les gens découvrent, parce que l'on dit, la période spirituelle, voilà, il est empreint d'une grande variété de choses, quoi.
On est obligé de rendre l'antenne, comme on disait au bon vieux temps. Je suis désolée. Alors, Sainte-Anne, on continuera à la découvrir. N'hésitez pas à rencontrer nos trois intervenants de ce matin sur les stands. Je pense que vous allez rester un petit peu.
Oui, oui hein. Bien sûr.
Et puis, donc, Cyril fait une séance de dédicace juste à la sortie de la salle.
Je voulais juste préciser quelque chose parce que je sais que la figure de Marie-Madeleine à l'heure actuelle, elle est assez controversée. Enfin, il se dit beaucoup de choses sur elle. Quand je dis ce que j'ai dit juste avant, je ne parle pas d'union physique du tout. Hein. Je ne parle pas de Jésus et de Marie-Madeleine dont elle aurait été l'amant ou l'épouse. Je parle d'un niveau spirituel et la mystique, elle se place à ce niveau-là. Ça nous élève un petit peu au-dessus du débat actuel. J'espère que vous m'avez bien compris parce que voilà.
Un grand merci à tous les trois. Merci aussi pour votre passion.
Merci beaucoup.
Et ces belles propositions que vous faites à tous les pèlerins. En sortant de la salle, n'hésitez pas, il y a donc la place pour les signatures du livre de Cyril. Il y a aussi une petite boîte, parce que ce forum a besoin de votre aide aussi financière pour perdurer. Donc n'hésitez pas à faire une petite contribution. Merci et belle journée à tous.
Merci à nos trois intervenants et merci à Isabelle d'avoir animé cette... avec brio cette table ronde. Merci Isabelle. Si vous souhaitez rester ici, il va se produire maintenant l'atelier sac à dos. Voilà, si vous le souhaitez.